Décryptage, Marie Cazadebé.
Septième jour de manifestation à Haïti depuis jeudi dernier, jour du deuxième anniversaire de la présidence de Moïse Jovenel. Des milliers de personnes descendent dans les rues pour crier leur frustration. La pauvreté endémique, accentuée par une forte inflation ces derniers mois, est rendue d'autant plus insupportable par un scandale de corruption à grande échelle. La colère touche plusieurs villes à travers le pays.
On va rester dans la rue pour tous les jeunes qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas à manger. On va rester dans la rue jusqu'à ce qu'on obtienne des routes, des hôpitaux et des universités.
Beaucoup de manifestants demandent la démission du président Moïse. Mais pour quelle alternative, quelle réponse peut vraiment apaiser la colère des Haïtiens? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Stéphanie Schuller.
Bonsoir Marie, bonsoir à tous.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes journaliste au service international de RFI. Vous suivez l'actualité haïtienne. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase en Haïti, c'est l'affaire Petrocaribe. C'est la gestion d'un programme d'aide financé par le Venezuela. L'affaire n'est pas nouvelle, Stéphanie. Comment pourrait-on la résumer?
Eh bien, peut-être il faut tout d'abord expliquer qu'est-ce que c'est ce programme Petrocaribe, Marie. Petrocaribe, c'est un programme initié en 2006 par l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez. Ce programme permettait à plusieurs pays d'Amérique latine et des Caraïbes d'acheter du pétrole vénézuélien à des prix assez avantageux et de rembourser ces achats sur 25 ans à un taux d'intérêt de seulement 1%. Haïti, donc, a bénéficié de ce programme Petrocaribe depuis 2008. La somme générée ainsi sur 10 ans s'élève, selon les estimations, à plus de 4 milliards de dollars américains. Ce fonds Petrocaribe, comme on l'appelle, était censé financer des projets de développement en Haïti, qu'il s'agisse du secteur économique ou encore celui des infrastructures ou de l'éducation. Mais malheureusement, les résultats ne sont pas du tout, mais pas du tout au rendez-vous. Et pour cause, les fonds Petrocaribe ont été dilapidés, dit-on, voire détournés. Alors, en 2016 et en 2017, puisque vous disiez justement en fait que cette affaire n'est pas nouvelle. Deux enquêtes sénatoriales ont été menées, il y avait des rapports, mais ces rapports sur cette corruption sont restés lettres mortes. Mais les Haïtiens, eux, sont, si vous voulez, doublement pénalisés. Non seulement ils n'ont pas bénéficié de cette aide vénézuélienne à leur développement, ils doivent en plus de ça rembourser via des taxes à la consommation la dette Petrocaribe. Seulement voilà, les Haïtiens prennent maintenant de plus en plus conscience de cette double injustice. Et là, justement, on arrive en août dernier. Le cinéaste Gilbert Mirambeau demande sur Twitter « Code Cop Petrocaribea, où est passé l'argent du Petrocaribe ?» C'est le début, on va voir un peu la naissance de ce mouvement citoyen contre la corruption qu'on appelle le Petrocaribe Challenge. Alors, ce 31 janvier, la Cour des comptes a elle aussi publié un rapport, nous allons en parler un peu plus tard, et il jette une lumière très crue sur les agissements des dirigeants haïtiens et sur une partie de l'entrepreneuriat du pays aussi.
Laïnec Urbon nous a rejoint en ligne de Port-au-Prince. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sociologie à l'Université d'État de Port-au-Prince, chercheur également au CNRS à Paris. Alors, on l'a entendu, c'est la société civile qui s'est vraiment saisie de ce sujet, Petrocaribe, avec des dépôts de plainte, constitution de partie civile. C'est aussi une spécificité de cette affaire.
Je pense que c'est une chose extrêmement importante. C'est la première fois qu'il y a eu une telle prise de conscience dans tous les secteurs de la vie nationale et dans la société civile. C'est un scandale considérable parce que c'est presque 4 milliards de dollars US qui ont été effectivement dilapidés, comme on vient de le dire. Et nous sommes dans un pays qui souffre d'inégalités sociales criantes, où il y a les problèmes les plus graves à tous les niveaux, et au niveau élémentaire, puisque Haïti représente le pays qui a le plus bas niveau de développement humain aujourd'hui, et donc chaque jour, la situation est beaucoup plus insupportable au plan économique, en sorte que les informations qu'on a sur le Petrocaribe démontrent que si la lumière n'est pas faite, eh bien, et les gens ont comme l'impression que la lumière ne sera pas faite, et c'est pour cette raison que très tôt, les gens se mettent debout et organisent des manifestations. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est une situation déjà annoncée autour du scandale de Petrocaribe qui renvoie au scandale quotidien de la situation sociale.
On va évidemment voir au fur et à mesure de cette émission que cette affaire Petro-Caribé n'est que celle, le déclencheur finalement d'une colère beaucoup plus profonde. La Cour de supérieure des comptes a publié donc un rapport d'audit le 31 janvier. Quelques jours plus tard, le gouvernement haïtien a engagé des poursuites judiciaires. Jean-Henri Séan est le Premier ministre d'Haïti.
L'État a porté plainte pour la dilapidation des fonds. Il y a des gens qui ont été indexés dans le rapport de la Cour supérieure des comptes et on en a tenu compte parce que, comme je le dis, la première victime de la dilapidation, c'est l'État haïtien. Donc, il n'y a rien de sorcier et ce n'est pas exceptionnel que nous ayons porté plainte. On a porté plainte parce qu'il y a des gens qui ont été indexés et on a porté plainte. Et on va continuer à partir des données qui sont inscrites dans le rapport, à voir aussi, et à partir de nos lumières aussi, en tant que juriste, voir quels sont ceux-là qui méritent qu'on porte plainte tout de suite, mais ça va continuer.
Stéphanie Schuller, le Premier ministre haïtien, ne cite aucun nom dans cette interview, mais qui est épinglé dans ce rapport ?
Eh bien, ce sont une quinzaine d'anciens ministres et de hauts fonctionnaires qui sont pointés du doigt dans ce rapport, Marie. Ils sont soupçonnés de blanchiment de capitaux, d'enrichissement illicite et de passation illégale des marchés publics, de surfacturation, de pots de vin, de commissions illicites, de trafic d'influence, et j'en passe. L'actuel président lui-même, Jovenel Moïse, est cité dans ce rapport de la Cour des comptes. Quand il n'était encore qu'un entrepreneur, sa société Agritrans, si, je ne sais pas si vous le savez, c'est une compagnie de production de bananes. Et pourtant, cette société a reçu des fonds de programme Petro-Caribé pour réhabiliter une route, mais aucun contrat n'a été signé. En fait, je crois une chose est absolument évidente, de voir le président lui-même être cité dans cette affaire tentaculaire de corruption, eh bien, ça ne fait qu'attiser la rage des manifestants qui sont actuellement dans la rue, ça c'est sûr.
Un ras-le-bol face à un fléau dont le pays n'arrive pas à se débarrasser. La Enec Urbon, Haïti, l'un des pays les plus corrompus au monde, selon l'agence Transparency International. Il occupe la 160e place sur 180. J'imagine que les autorités en place actuellement ne sont évidemment pas les seules à être pointées du doigt dans des affaires de corruption.
Justement, la question est celle-là. Et on le sait, la corruption provient directement des instances de l'État. D'abord de l'exécutif qui utilise à tout bout de champ des sommes faramineuses et qui sont toujours extra-budgétaires et qui vont mettre la goutte dans une dépréciation permanente. Il y a ensuite surtout les trains de vie des directeurs de différentes institutions nationales comme l'ONA, le FAES, toutes les grandes institutions nationales, ainsi que surtout les parlementaires qui reçoivent des sommes régulières, 15 000 dollars, des directeurs qui touchent 15 000 dollars, des parlementaires qui ont deux voitures, sans compter des gens qui sont à l'heure active, sans compter des sommes qu'ils se donnent eux-mêmes, si bien que le scandale traverse toutes les instances de l'État. Et c'est ce qui met la population dans un état de colère permanente qu'ils ont exprimé, qui a été exprimé d'abord le 6 juillet, puisqu'il y a eu des manifestations à travers tous les pays le 6 juillet dernier contre la hausse du prix de l'essence. Ensuite, il y a eu surtout le 17 octobre, le 18 novembre. Et maintenant, les manifestations permanentes depuis une semaine.
Et la colère aussi face à l'impunité. Finalement, cette corruption, on en parle depuis des décennies en Haïti. Et peu de procédures, en tout cas, qui vont à leur terme. Et de responsables épinglés par la justice.
Ah, bien sûr, c'est un problème. Et les gens savent qu'ils ont, ceux qui sont au pouvoir, qu'ils ont l'impunité, et qu'ils ont l'immunité d'abord, ceux qui sont au Parlement, et puis l'impunité. Mais tout le système de la justice est l'un des problèmes principaux du pays. Donc là, nous assistons, pour une fois, à un effondrement de toutes les capacités de l'État même de réagir face à la montée des masses à travers tout le pays, parce que ce qui se passe là, ce ne se passe pas seulement à Port-au-Prince, ça se passe dans les villages, et il y a des barricades partout. Ça ne peut pas être une simple partie de manipulation des gens. Il y a une véritable prise de conscience citoyenne que ce qui se passe aujourd'hui en Haïti ne peut pas durer, et on ne comprend pas précisément que les institutions internationales ne comprennent surtout pas. Parce que n'oubliez pas qu'il y a l'ombre de Martelly, de l'ancien président, qui plane sur l'actuel président, Jovenel Moïse. Et donc, il sait qu'il doit le protéger. Et la dilapidation des biens la dilapidation des milliards de Petro-Caribé, et bien sûr, c'est surtout le gouvernement précédent. Ici, ça a commencé bien avant.
Oui. Puisqu'on le disait, effectivement, c'est une affaire maintenant qui remonte à plus de 10 ans. Alors notre correspondante Amélie Baron suit pour nous au quotidien ces manifestations. Elle a recueilli des témoignages hier à Port-au-Prince, au milieu des jeunes de Cité Soleil. Vous allez entendre l'un d'eux, suivi d'un commerçant qui s'est fait voler une partie de ses marchandises.
On est resté calme, mais Jovenel Moïse nous a abandonnés avec notre faim, et quand on a faim, ils savent ce qu'on peut faire. On n'a qu'à tout casser, mais on ne veut pas ça, on veut du travail. Sans ça, on va tout raser dans le pays, parce qu'on n'en peut plus de souffrir, on a trop faim.
Ça n'est pas leur faute, ils ont faim. Ce qu'ils ont pris, ils l'ont bu ou vont le vendre et avoir de quoi soulager un peu leur famille. Je n'ai rien contre eux. C'est parce qu'on n'a pas de bons dirigeants. Si tout le monde avait du travail, ça n'arriverait pas. C'est à cause de ce président de mascarade qui fait que toutes ces dérives se produisent en Haïti.
Léné Courbon, qui manifeste depuis jeudi dernier en Haïti ?
Eh bien, ce qui manifeste vraiment, c'est tout le monde partout. Évidemment, sauf évidemment les gens, on ne trouve pas les gens des classes aisées dans les rues, mais on trouve vraiment d'abord dans tous les quartiers populaires, il y a du monde, et dans toutes les villes et les villages, y compris des gens descendent des sections rurales pour aller vers des villes comme au Caï, comme à Marigot, dans le sud-est. Mais il n'y a pas de ville où il n'y a pas de barricades, qui brûlent, mais évidemment, il y a toujours dans ces circonstances-là des dérapages, et c'est assez grave. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de blessés et de pillages, parce que les gens, effectivement, ont faim et ne peuvent plus tenir. Il y a des magasins qui ferment maintenant, au moment où nous parlons, parce qu'ils ne peuvent pas avoir des milliers de dollars pour pouvoir acheter un certain nombre de biens alimentaires.
Alors justement, je me tourne juste...
Ouais. Le gouvernement ne parle pas.
Tout à fait, le silence effectivement du gouvernement, mais je me tourne vers Stéphanie Schuller, parce que ce qui est marquant cette fois, c'est aussi la durée des manifestations. Ça fait 7 jours, l'ANEC Urbon faisait allusion à d'autres séries de manifestations, mais qui n'avaient duré que 2 ou 3 jours. Pourquoi cette spécificité est-elle marquante?
Eh bien, je dirais personnellement, je ne sais pas ce qu'en pense l'ANEC Urbon, mais pour moi, cette durée est en fait assez impressionnante, ou en tout cas surprenante, parce qu'il ne faut pas oublier que l'immense majorité de la population haïtienne vit dans une extrême précarité. Beaucoup de gens survivent grâce au commerce informel, c'est-à-dire ils vendent toutes sortes de produits et proposent toute une multitude de services dans la rue. Mais ces activités, aussi précaires qu'elles soient, eh bien depuis 7 jours, elles ne sont tout simplement plus praticables parce que les rues du pays sont devenues un endroit incertain et dangereux. Or, cette majorité de la population là, elle n'a zéro économie. Elle vit au jour le jour, et après 7 jours de manifestations et d'émeutes, vous imaginez bien le désarroi des parents qui ne savent plus quoi mettre dans l'assiette de leurs enfants, et même l'eau potable commence à manquer dans certains endroits. Donc la situation commence à être sincèrement inquiétante, et je suis personnellement, j'aimerais bien entendre l'ANEC Urbon là-dessus, surprise que finalement les manifestants tiennent. J'imagine que ça, c'est aussi un signe de leur degré de rage ou de colère.
Monsieur Urbon, la durée de ces manifestations, alors malgré justement toutes ces difficultés économiques difficilement surmontables?
Oui, exactement, c'est ce que je pense. Je pense qu'on n'avait pas vu ça 7 jours, et les gens manifestent une rage réelle. Et cela veut dire qu'il y a le mutisme de l'actuel président qui laisse courir en espérant que les gens finiront par ne plus avoir la capacité même de tenir, puisqu'ils auront faim, eh bien, malgré cela, les gens préfèrent encore tenir la route. Donc cela veut dire que on ne peut pas se contenter de voir là uniquement de la manipulation. Il y a une détermination, il y a une volonté de sortir de cette situation traditionnelle, de ces inégalités criantes, de cette situation de misère grasse qu'on n'a jamais vue et qui devient chaque jour plus grave.
Et qui s'est aggravée encore, Lainec Urbon, ces derniers temps aussi, avec une dépréciation de la monnaie haïtienne. On sait que le pays était l'un des plus pauvres au monde, mais la situation s'est encore aggravée ces derniers mois.
Absolument, c'est aggravé. Un dollar vaut 85 gourdes et on pense que ça peut arriver jusqu'à 100 gourdes. Il y a des économistes qui le pensent, mais cela veut dire qu'il y a une inflation qui est grave, car les banques, au-delà de 15%, cela veut dire que les gens, effectivement, depuis plusieurs mois, ne peuvent plus tenir. Donc ce qui se passe là, c'est le résultat d'une série de pratiques du gouvernement qui consiste précisément à vivre dans une ostentation, à mener un train de vie qui crée cette situation de dépréciation continuelle de la gourde et donc de la dégradation de l'économie des plus pauvres.
La suite de notre décryptage sur ce mouvement de contestation d'une durée inédite en Haïti, cela fait 7 jours maintenant. Nous sommes toujours avec le sociologue haïtien Lainec Urbon. On entend des Haïtiens demander le départ de Jovenel Moïse en poste depuis 2 ans. Mais pour quelle alternative finalement? Ils demandent son départ, pour l'arrivée de qui? Qui ils attendent, les Haïtiens?
Oui, c'est le problème, parce que jusqu'ici, la thèse courante, c'est de dire que le président a un mandat entre les mains pour 5 ans, et donc il n'y a pas de raison de lui demander sa démission. Mais la même chose s'est produite pour Aristide en 2004, si on se souvient. Il a été obligé de donner sa démission face à des manifestations monstrueuses, alors que lui-même pouvait mettre encore des gens dans la rue, des partisans dans la rue. Cette fois, on a l'impression que le président Jovenel ne peut même pas mettre les gens dans la rue, il n'arrive même pas à s'adresser à la population depuis 7 jours. Donc autrement dit, il commence à être responsable de ce qui est en train de se passer.
Très peu d'Haïtiens sont allés aux urnes, hein, il y a 2 ans pour les élections, l'élection présidentielle. Seuls 20% des électeurs sont déplacés. Et j'ai vérifié, donc en 2011, il n'était que 25% aussi pour la présidentielle qui avait amené Michel Martelly au pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de représentativité des présidents en Haïti?
Oui, mais il y a un problème aussi, c'est que les Haïtiens ne sont pas les seuls électeurs. Il faut se souvenir qu'au moment des élections de Martelly, il y avait une présence, peut-être, je ne sais pas si c'était du grand groupe, mais de toute façon, une présence américaine très forte qui imposait Martelly parmi les candidats. Donc il était placé 3e ou 4e, premier tour, et on l'a fait passer en 2e. Et il y a eu quelque chose là que les Haïtiens n'ont pas beaucoup digéré. Jovenel, lui, est revenu comme étant le dauphin de Martelly avec 500 000 voix, alors qu'il y a quand même 11 millions d'habitants et 6 millions de votants potentiels, ce qui montre qu'il y a problème en ce qui concerne les élections en Haïti.
Stéphanie,
les Haïtiens n'avaient pas été les seuls électeurs.
C'est Stéphanie Schuller, est-ce que ce mouvement s'est trouvé ou bien se cherche un leader? Est-ce qu'on voit quelque chose sortir justement de cette colère dans les rues?
Les pétro-challengers, vous voulez dire?
Pourquoi pas, oui, ceux qui ont justement mis en avant cette affaire.
Les pétro-challengers, en fait, pour l'instant, mettent en avant qu'ils n'ont justement pas un leader. Ils ne croient pas à l'homme-providence. Ils revendiquent justement d'être un groupe, d'être la population. Et c'est ça ce qu'ils mettent en avant. Donc, pour l'instant, s'ils ont des idées politiques, ils mettent en tout cas pas une personne en avant, ce qui n'est peut-être pas d'ailleurs une mauvaise idée, mais plusieurs, donc c'est-à-dire un groupe et la population dans son ensemble.
Donc, on va suivre avec beaucoup d'attention l'actualité en Haïti, voir si demain encore les Haïtiens vont sortir dans la rue. Merci beaucoup Stéphanie Schuller du service international de RFI et Lainec Urbon qui était avec nous en ligne de Port-au-Prince, professeur de sociologie à l'Université d'État de Port-au-Prince. Prince, merci à toute l'équipe de décryptage. Éléonore Krenik, Vanadis Feuille, Gérard Perrault et Nicolas Benita à la réalisation. Tout de suite, l'actualité africaine.